Voilà, nous lisons dans Daniel chapitre 6. Daniel chapitre 6. Nous avons consacré cette journée à prier contre tous les obstacles qui veulent nous empêcher de prier. Et le premier obstacle, bien sûr, ça va être Satan lui-même, puisqu'il connaît les effets de la prière. Quand nous prions, nous avons un chant qui dit « Chaque fois que tu pries, que tu loues le Seigneur, l'enfer tremble, tremble de peur. » Effectivement, quand on prie, on loue le Seigneur, les effets du feu du Seigneur tombent sur les œuvres des ténèbres. Et du coup, voilà, ils vont être les premiers, ces gens-là, à vouloir s'opposer à ceux qu'on prie, en utilisant les humains, entre autres. C'est pas, comme Paul a dit, ce n'est pas les humains qui sont vraiment nos ennemis. Nous n'avons pas à combattre la chair et le sang, mais c'est des esprits qui sont derrière ces humains-là. Et nous lisons dans Daniel chapitre 6 un exemple d'opposition claire à la prière. Il est écrit ceci. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendent compte et que le roi ne souffre aucun dommage. Daniel surpassait les chefs et les satrapes, parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Voilà, on nous dit qu'il y avait en Daniel un esprit supérieur. Et ces gens ressentaient ça. On ne dit pas qu'il y avait en Daniel une force physique en apparence supérieure. Non, un esprit supérieur. Et ces gens-là sentaient ce poids-là. Daniel était un homme de prière. Et à cause de sa vie de prière, à cause de sa relation avec Dieu, les opposants, les adversaires ressentaient ce poids-là. Et ils ont voulu combattre ça. Comment ? Nous lisons au verset 4. Alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion, ni aucune chose à reprendre, parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais. Et ces hommes dirent, nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Puis ses chefs et ses satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi et lui parlèrent ainsi. Roi Darius, vis éternellement tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs se sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère, portant que à quelque dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse aux lions. Maintenant, ô roi, confirme la défense et écris le décret afin qu'il soit irrévocable, selon la loi des Mèdes et des Perses, qui est immuable. Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret et la défense. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois par jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Alors ces hommes entrèrent tumultueusement et ils trouvèrent Daniel qui priait et invoquait son Dieu. Puis ils se présentèrent devant le roi et lui dirent au sujet de la défense royale. N'as-tu pas écrit une défense portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adresserait des prières à quelque Dieu ou à quelque homme excepté à toi, ô roi, serait jeté dans la fosse aux lions? Le roi répondit, la chose est certaine, selon la loi des Mèdes et des Perses, qui est immuable. Ils prirent de nouveau la parole et dirent au roi, Daniel, l'un des captifs de Juda, n'a tenu aucun compte de toi, ô roi, ni de la défense que tu as écrite. Et il fait sa prière 3 fois par jour. Le roi fut très affligé quand il entendit cela. Il prit à cœur de délivrer Daniel et jusqu'au coucher du soleil, il s'efforça de le sauver. Voilà. Nous connaissons la fin. Daniel a été jeté dans la fosse aux lions. Mais dans la fosse aux lions, il y a un ange qui est venu fermer la gueule des lions et qui n'ont fait aucun mal à Daniel. Alors, les gens des ténèbres connaissent la force de la prière. Alors, ils feront tout pour nous distraire. Ils feront tout pour nous empêcher de prier. Et ces gens-là ont cherché une faille chez Daniel. Ils n'en ont pas trouvé. Ils se sont dit, on va l'attaquer sur la source de sa force. Voilà. Au lieu de l'attaquer sur l'extérieur, allons plutôt à la source, dans la loi de son Dieu. C'est là qu'on peut l'empêcher d'être efficace. Parce qu'on ne trouve pas de faille à l'extérieur. Si on peut le tenir par la source, et la source, c'est la prière. Satan fera en sorte qu'on ne prie pas. Parce qu'il connaît la puissance de la prière, parce que les effets sont sur lui. Comme il y a un frère qui avait dit un jour, il dit, quand tu es avec Dieu, tu ne le vois pas. Et parfois, tu t'en plains. Mais deviens ennemi de Dieu, là, tu le verras. Quand tu es son ami, quand tu es son collaborateur, quand tu es son soldat, souvent, tu ne le vois pas. Et on se plaint. Mais il est où Dieu pour nous soutenir? Mais il est là. Mais on ne le voit pas. Mais c'est quand tu deviens l'ennemi de Dieu. Bien-aimé, ça ne vous est jamais arrivé de vouloir échapper à quelque chose où vous sentez que Dieu veut vous amener à là. Mais vous voyez comment il insiste. Hein? Vous cachez, il y a quelqu'un qui vous découvre. Vous faites ceci. Donc il va de plusieurs manières vous amener à sa route. Quand on résiste à Dieu, on le voit. On le voit, on sent qu'il est là. Mais les gens qui sont avec lui se plaignent souvent de ne pas le sentir. Mais il est là. Va dans l'autre camp. Mais c'est pas ce que je peux souhaiter à quelqu'un. Mais quand tu es dans l'autre camp, eh bien, tu sens qu'il est là, qu'il existe. Parce que les prières des enfants de Dieu le font réagir, le font agir. Et les gens des ténèbres connaissent cela. Et un de leurs travaux efficaces, c'est de nous empêcher de prier. Je me souviens, un sorcier aussi avait dit ça. Donc, il dit, il y a un chrétien dans un immeuble qui l'embêtait tout le temps par ses prières. Donc, dès que le chrétien priait, lui n'arrivait plus à travailler. Alors, qu'est-ce qu'il faisait avant de travailler? Il envoyait d'abord le sommeil au chrétien. Un sommeil anticipé. À l'avance, t'envoies le sommeil, ce n'était pas prévu. Tu as déjà sommeil en ce moment-là. Ou dès que tu veux prier, combien de fois? Dès qu'on veut prier, c'est là qu'on a fortement sommeil. Mais quand tu regardes la télé, les yeux sont bien, 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 bien ouverts. Mais quand c'est la prière, c'est là que tu commences à dormir. Parce qu'il y a des gens que tu embêtes quand tu pries. C'est pourquoi, tac, ils t'envoient le sommeil. Comme ça, tu ne pries pas. On voit ça même parmi nous. Dans les veillées de prière, dès qu'on commence à prier sérieusement, les gens commencent à dormir. Parce que l'ennemi ne veut pas qu'on prie. Il connaît la puissance de la prière. Ces gens-là ont compris. Et c'est eux qui nous montrent. Nous qui prions, parfois nous doutons de l'efficacité de la prière. Mais ces gens-là qui subissent la prière, ils ont dit, maintenant, il faut qu'on empêche ce Daniel de prier. Ils ont décrété combien de temps? 1 mois. Mais bien aimé, 1 mois, ce n'est pas beaucoup. Donc Daniel pouvait faire une parenthèse dans sa vie. Dire, bon, pendant 1 mois, je ne prie pas. Et puis, bon, une vie, c'est combien? C'est 80 ans, 70 ans. Bon, je ne prie pas. pendant un mois. Est-ce que c'est grave, ça? Oh, c'est grave. Dans le monde spirituel, chaque prière a son poids. Chaque prière a son poids. Une fois, nous avons fait l'étude d'un texte dans Ecclésiaste 11 qui nous montrait que, puisqu'on ne sait pas, peut-être qu'il faut qu'on vérifie ça, Ecclésiaste 11. Voilà, Ecclésiaste 11, verset 6. Dès le matin, sème ta semence, et le soir, ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. Ce passage-là nous parle de semences, mais est-ce que Dieu s'intéresse sur ces choses-là? Mais Dieu parle toujours en esprit. Jésus a dit, ses paroles sont esprit et vie. Salomon dit, il faut semer le matin, le soir, parce que tu ne sais pas, est-ce que c'est la semence du matin qui va porter, ou c'est la semence du soir, ou c'est les deux? Comme on ne sait pas tout ça, ce sont des mystères de Dieu. Toi, tu sèmes, tu ne sais pas ce qui se passe en dessous. C'est la même chose avec la prière. Tu pries, tu ne sais pas ce qu'il y a dans l'arrière-plan. Dieu nous a caché ça. Il ne veut pas qu'on sache ça, sauf quand il le désire ponctuellement. Alors, prie. Dès que tu peux, tu pries. Parce que tu ne sais peut-être pas cette prière-là que tu veux éviter là. C'est ça qui va être la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et nous, on va calculer, on va dire, mais non, mais j'ai déjà prié. Il y a 3 heures, j'ai déjà prié, c'est bon. Je veux prier comme une fois. Mais si l'envie vient, si la situation le veut, prie. Ne te dis pas que j'ai déjà beaucoup prié. C'est ce que Salomon nous conseille, dit, mais fais ça à tout moment, tu fais ça le matin, tu fais ça le soir. Paul nous dit, prie sans cesse. Parce que tu ne sais pas quelle est la prière qui débloque tout. Comme tu ne sais pas, mais dès que tu peux, prie. Parce que peut-être c'est ça que tu ne veux pas faire là qui va tout débloquer. Donc quand nous on dit, mais un mois, ce n'est pas beaucoup, il pouvait stopper un mois et recommencer sa vie de prière. Ah non, ce mois-là, il était décisif. Parce que c'était le mois de la victoire. Le mois du grand combat. C'était le mois où il devait même prier parce que c'était là que se trouvait, c'était là le combat face aux forces des ténèbres qui voulaient piloter le roi Darius dans leur direction. C'était ce mois-là. Et Daniel le sentait. Vous savez, quand quelque chose, vous êtes, Dieu veut que vous le fassiez, quand vous ne faites pas ça, vous avez l'impression que vous perdez la vie, qu'il y a un vide dans vous, qu'il vous manque quelque chose. Et Daniel, ne pas faire sa prière comme d'habitude, devait ressentir une sorte de mort. Oh, qui veut mourir? Tout le monde veut vivre. La prière doit atteindre cette dimension-là où, quand on ne la fait pas, on ressent comme une sorte de mort. Et comme on veut vivre, alors on prie. Et Daniel a prié parce que c'était le moment qu'il fallait prier. Et quand il a fini, et quand il a prié, on l'a arrêté physiquement, mais spirituellement, qui a gagné? C'était lui. Spirituellement, l'ange est venu le délivrer de la fosse au lion. Le roi a fini par comprendre, avait déjà compris dès le départ, après qu'on ait arrêté Daniel, le roi a pris fait et cause pour Daniel. Clairement, officiellement, les ennemis de Daniel ont été quoi? Ont été massacrés, éliminés. Parce que Daniel ne s'est pas laissé déstabiliser. Il a compris que, en voulant l'empêcher de prier, ça voulait dire que c'était la prière qui était sa force. Disons-nous cela. Tout ce qui veut nous empêcher de prier prouve que c'est la prière qui est notre force, qui est notre recours. Mais que nous dit une voix douce? Mais tu pries déjà depuis des années, tu pries déjà depuis longtemps, tu continueras encore à prier. Alors que tu manques ce temps-là de prière de maintenant là, c'est pas grave. Voilà, bien-aimé, n'écoutons pas cette voix-là. Écoutons la voix de notre cœur. Écoutons l'élan du Saint-Esprit en nous qui nous pousse à prier. Écoutons ça. Écoutons parfois des frères et sœurs qui peuvent nous inviter à une prière. Écoutons. Allons. Là où il y a la prière, allons. Allons. Salomon a dit, tu ne sais pas ce que tu sèmes. Qu'est-ce qu'il va rapporter? Choisis celui qui t'invite à la prière plutôt qu'autre chose. Plein d'obstacles comme ça. On va poser. Il y a la peur. Les disciples, quand on a arrêté Jésus, eh bien, ils ont eu peur. Ils ont eu peur. Et au lieu de prier, au lieu de chercher la face de Dieu, ils ont préféré fuir. Et même quand Jésus est à Gethsémané, ils sentaient la difficulté de Jésus, ils se sont endormis. Jésus a dit, vous n'avez pas veillé une heure avec moi. Vous n'avez pas pu veiller une heure avec moi. C'est là où il sort la fameuse phrase, non? Veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. Et on a vu dans la suite, Jésus a triomphé parce que lui avait prié de la tentation. Mais eux, ils ont capitulé, ils ont fui. Pierre a renié le Seigneur. C'est ça, bien-aimé. La logique rationnelle, la logique humaine, ou bien la logique de l'habitude. On vient dire à Jaïrus, laisse tomber, ta fille est morte. Ce n'est plus la peine. Ça, c'est la logique humaine. Jésus pouvait faire quelque chose quand elle était vivante. Mais maintenant qu'elle est morte, laisse tomber. Ce n'est pas la peine. Mais Jésus va dire à Jaïrus, ne crains pas, crois seulement. Fais-moi confiance, c'est moi qui agis. Bien-aimé, il y a une logique humaine qui va te dire, mais ce que tu veux demander là, est-ce que Dieu peut exaucer un petit homme comme toi? Il peut, parce que lui il est tout puissant. Toi tu es petit, mais tu pries le Dieu tout puissant. C'est ça la différence. N'écoutons pas notre logique, notre intelligence qui nous dit, mais oui, mais ce que tu demandes, là, va demander ceci, cela. Demandons toujours. Josué, bien-aimé, a arrêté le temps. Il a arrêté le soleil. Soleil arrête tout. Il a arrêté le temps. Quelle prière! Qui oserait prier comme ça maintenant? Mais c'est possible. On peut prier comme ça. Seigneur, arrête le temps. Quand on a un élan avec le Saint-Esprit, prions que personne ne nous retienne. Il y a la logique humaine, la logique rationnelle qui va vouloir nous retenir. Ne suivons pas, Seigneur. Il y a toutes sortes de distractions qui vont venir là pour dire, mais non. Suis plutôt telle vidéo. Suis plutôt telle vidéo au lieu de prier. Et toujours la logique diffuse qui est là en nous. Mais ça fait des années que tu pries. Dieu en tiendra compte. Comme si on est dans un exercice de rendement. Je fais beaucoup, mais non. On est dans l'obéissance au Saint-Esprit. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, nous devons marcher selon l'Esprit. Voilà, on est dans l'obéissance au Saint-Esprit. Quand l'élan de prière vient, on prie. On prie sans cesse. On n'a pas dit, j'ai beaucoup prié. Non, bien-aimé, ta prière que tu fais a son importance. Ce n'est pas une petite prière. Chaque prière a son importance devant Dieu. Et l'ennemi cherchera toujours à nous empêcher de le faire. Et c'est même le moment où nous sommes paralysés qu'on doit prier. C'est même le moment où nous sentons que nous n'avons plus goût à la prière. C'est ce moment-là où le combat est le plus ardu, c'est là qu'il faut même prier. C'est-à-dire que tous les signaux qui t'amènent à dire, ne prie pas. C'est en ce moment-là que tu dois te dire, ah, c'est maintenant que je dois prier. Les obstacles sont le signe pour toi que c'est plutôt la prière que tu dois faire. Rappelons-nous de cette phrase-là. Et souvent, c'est la peur et l'environnement qui va nous pousser à ne pas prier. Et au contraire, quand on voit ça, prions. Même dans le cœur, on prie. Les obstacles nous enlèvent comme une sorte de conscience de soi. On n'est plus conscient. On est comme embarqué par quelque chose d'autre. La peur du nombre. On va lire une grande prière qui a été faite dans 2 Chroniques, chapitre 14. J'aime beaucoup cette prière-là. 2 Chroniques, chapitre 14. Dans la Bible, il y a des exemples de prières qui sont vraiment posées pour nous donner des lignes par rapport à la prière. Quand on lit ces prières-là, ça nous aide nous-mêmes aussi à prier. Dans 2 Chroniques, chapitre 14, voilà, il est écrit au verset 7. Asa avait une armée de 300 000 hommes de Juda, portant le bouclier et la lance, et de 280 000 de Benjamin, portant le bouclier et tirant de l'arc, tous vaillants hommes. Zérak, l'Éthiopien, sortit contre eux avec une armée d'1 million d'hommes et 300 chars. Et il s'avança jusqu'à Maresha. Asa marcha au-devant de lui et ils se rangèrent en bataille dans la vallée de Tsephata, près de Maresha. Donc il avance avec une armée d'1 million d'hommes. Bien-aimé, quand tu vois ça, c'est comme si ton corps, comme on dit, tes jambes se dérobent sous toi. Tes jambes fuient. C'est comme si tu ne peux plus rester debout quand tu vois ça, 1 million de personnes avancer vers vous. Et il est écrit au verset 10, « Asa invoqua l'Éternel, son Dieu, et dit, « Éternel, toi seul peux venir en aide aux faibles comme aux forts. Viens à notre aide, Éternel notre Dieu, car c'est sur toi que nous nous appuyons, et nous sommes venus en ton nom contre cette multitude. Éternel, tu es notre Dieu. Que ce ne soit pas l'homme qui l'emporte sur toi. Amen. Que ce ne soit pas l'homme qui l'emporte sur toi. Après tout, le roi d'Éthiopie n'est qu'un homme. Seigneur, tu ne vas pas les laisser battre ton armée, donc c'est-à-dire l'emporter sur toi-même. Tu viens en aide aux faibles comme aux forts. Et beaucoup de gens sont freinés par Satan. Quand ils veulent prier, Satan dit, mais tu pries alors que tu es en colère, tu pries. Mais bien aimé, oui, quand tu dis au moins, dans ta colère là, tu dis, Seigneur, sors-moi de cette colère. Seigneur, je ne veux pas. Libère-moi de ça. Dis-le. Ne te laisse pas emporter. Satan dit, non, ne prie pas. Attends que la colère finisse. Non, prie. Dis, Seigneur, sors-moi de la colère. Même pendant que tu es en train de commettre un péché, tu peux prier, dire, Seigneur, sors-moi de ce péché. Sors-moi de ce péché. Sors-moi de ce péché. Satan me dit, non, attends d'abord de consommer le péché, tu vas confesser après. Non. Pendant même, bien-aimé, on peut arrêter beaucoup de mauvaises choses comme ça en priant. Mais Satan veut lui dire, mais non, tu es trop faible là, tu es trop faible, ne prie pas. Mais au contraire, puisque je suis faible, c'est là que je dois prier. Tu viens en aide aux faibles comme aux forts. Asa dit, Seigneur, aujourd'hui nous sommes faibles, viens à notre secours. Et même qu'on serait fort, voilà encore un autre enseignement que Asa nous donne. Quand nous, on pense que tout est bon, on peut régler avec nos calculs. Oh, bien-aimés, prions toujours. Josué, quand il fallait se battre contre Haï, il a envoyé quelques soldats. Il a dit, mais c'est une petite bataille. Ah, ben, ils se sont fait frapper comme il faut. Parce qu'ils n'ont pas prié. Parce que s'ils avaient prié, Dieu aurait montré qu'il y avait un problème. Ils allaient enlever le péché. Mais comme ils se sont dit, c'est une petite bagarre, bataille, bon, on va envoyer quelques soldats, ils vont régler la chose, eh bien, ils se sont fait ramasser comme il faut. C'est pourquoi nous devons prier. Le Seigneur seul peut nous sortir des problèmes difficiles, ou même faciles. Il vient en aide aux faibles comme aux forts. Pendant que tu es en train de faire un exercice, tu as un contrôle à faire pour passer une... pour avoir une promotion au travail, un examen, un concours, un examen à l'école. Tu traînes, tu pries, Seigneur, dévoile-moi la solution. On n'est pas en train de dire d'encourager les gens qui ne travaillent pas à la maison. On dit, mais on peut travailler aussi, être coincé. Tu pries. Mais certains diront, mais ça, ce sont des choses de l'école. Il fallait juste... Non. Le Seigneur vient en aide pour tout. Aux faibles comme aux forts. Tu pries. Le Seigneur peut te révéler ce qu'on posera comme question demain. Parce que quand tu étudiais, tu préparais tes examens, tu priais en même temps. Mais qu'est-ce que Satan dit aux gens habituellement concernant les examens? Concentre-toi sur tes examens, hein, tu prieras après. Ah oui! Combien de fois j'entends ce langage chez les chrétiens? Bon, pour le moment, je me concentre, je travaille. Je ne veux pas plus. On verra plus tard pour la prière. Au fait, c'est le contexte qu'il fallait faire. Il fallait dire, Seigneur, conduis-moi dans la préparation de mes examens. Conduis-moi. Amène-moi à travailler selon ta volonté. Non, on se dit, ça, ce n'est pas le domaine du Seigneur. C'est le domaine du monde. Je travaille et on verra la prière après. Ça, ce sont des risques du diable. Ce sont des obstacles pour ne pas prier. Prions pour tout. Disons, Seigneur, conduis-moi dans les études. Comment je dois travailler? Quelles priorités je dois faire? Bien-aimé, il y a beaucoup à faire. Comme travaux, si on doit suivre tout ce qu'on nous donne, on donne aux gens à l'université ou bien à l'école. Alors, à un moment donné, face aux examens, on doit prier que Dieu nous conduise. Qu'est-ce qu'on doit préparer? Qu'est-ce qu'on doit étudier? C'est ce qui fait que beaucoup de chrétiens, avec peu, avec pas une grande intelligence ou bien peu de moyens d'études, ils ont réussi les concours que d'autres n'ont pas réussi. Parce que le Saint-Esprit les a conduits exactement dans ce qu'ils devaient travailler. N'écoutons pas tout ce qu'il veut nous dire. Ne prie pas. N'écoutons pas ça. Prions au contraire. Ces gens-là, ils ont prié. Qu'est-ce qui s'est passé? L'Éternel frappa les Éthiopiens devant Asa et devant Juda et les Éthiopiens prirent la fuite. Nous allons encore dans 2 Chroniques 20. Nous connaissons par contre celui-là parce que souvent ça a été cité. 2 Chroniques 20, il est écrit, après cela, au verset 1er, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux des Maonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant, « Une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Hatsatson-Tamar, qui est En-Gedi. » Que dit le verset 3? « Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Juda. » Amen. Dans sa frayeur, avoir peur, c'est naturel, ça arrive. Mais le problème, c'est que la peur peut produire quoi? La paralysie, la léthargie. Donc tu ne fais rien, tu es comme abattu sous un poids et tu te laisses aller. Alors que dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Pendant qu'on a peur, on fait quoi? On prie, on cherche l'Éternel. Il publia un jeûne. Pendant que Jésus avait peur à Gethsémané, qu'est-ce qu'il a fait? Il a prié jusqu'à ce que les gouttes de sang sont sorties. Bien-aimé, c'est ça. Tous ces obstacles-là, la peur, la méconnaissance de Dieu, ne pas connaître Dieu, c'est aussi un problème. Parce que le centenier romain, il a dit, « Dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. » Parce que moi-même, je donne des ordres à mes soldats. Toi, tu peux donner des ordres. Sa prière était liée à sa connaissance de Dieu. Dieu est tout puissant, il a fait toutes choses. Et Jésus est son représentant. Jésus est le Fils de Dieu. Il peut donner des ordres à tous ceux que... à tout ce qui existe, et mon serviteur sera guéri. Nous avons besoin de connaître Dieu. Quand on connaît Dieu, et qu'on sait que la prière, c'est notre arme redoutable, ben on va l'utiliser à tout moment. Josaphat a publié un jeûne. Ils ont prié. Oh, ce jour-là, Ils n'ont même pas eu à se battre. Ils ont mis des chantres avant les combattants. Et les chantres louaient l'Éternel. C'est écrit le lendemain, verset 20. Ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, « Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem. Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. » Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient, « Louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. » Il est écrit, au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre le fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séir qui étaient venus contre Juda et ils furent battus. Amen. Au moment où commençaient les chants et les louanges, louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Quand Dieu entend ça, il dit voilà, je descends. Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Ces gens-là, ils venaient au combat avec la prière pour l'Éternel. Ils n'ont pas utilisé la logique humaine qui voudrait qu'on mette plutôt les guerriers avant eux. Ils ont utilisé la logique du Saint-Esprit qui a mis des chantres sans défense, juste avec des habits sacrés, devant des soldats qui arrivent face à eux. Mais ils comptaient sur l'Éternel des armées. C'est pourquoi on l'appelle l'Éternel des armées. Mais son armée agit quand nous prions. Nous avons vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de notre témoignage. Il faut connaître Dieu et prier sur Dieu-là. Et quand nous prions ainsi, au ciel, les anges reçoivent de la force de la part de Dieu pour combattre pour nous. Comprenons ces choses-là et ne négligeons pas la prière. Au nom de Jésus, amen.